parfois difficile à obéir, parfois même polémique. J'aimerais que nous nous arrêtions ce matin sur une parole en apparence facile, facile à comprendre. Une parole pleine d'espérance, où Jésus parle de la sécurité éternelle du croyant. Où est la difficulté, me direz-vous ? Elle ne réside pas dans la compréhension du texte, où ce que Jésus dit est évident. La difficulté se trouve dans la juxtaposition de cette parole et d'autres qui lui ressemblent, avec soit des versets de la Bible qui semblent dire le contraire, soit des situations de vie qui semblent contredire ce que Jésus dit ici. En effet, si certains versets, comme celui qui va nous intéresser ce matin, affirment l'assurance du salut, d'autres semblent dire qu'il ne peut pas y avoir de certitude dans ce domaine. Et puis il y a le constat que certains chrétiens, le constat de certains chrétiens, qui parfois, après un certain nombre d'années de vie chrétienne, se détournent de la foi, alimentant cette idée que le chrétien peut perdre son salut. Qu'en est-il ? Que faut-il en penser ? Est-il possible de perdre la foi ? Est-il possible d'être sauvé un jour et perdu le lendemain ? Est-il possible de perdre le bénéfice de ce que Jésus a fait pour moi ? Est-il possible que le don de la vie éternelle soit temporaire ? Est-il possible de revenir à la mort après être passé de la mort à la vie ? Est-il possible de redevenir enfant des ténèbres après avoir été enfant de lumière ? Est-il possible que le livre de vie soit plein de ratures ? Est-il possible qu'un chrétien perde son salut ? Voilà des questions que vous vous êtes, comme moi, certainement déjà posées. Peut-être même que cela, ces questions, ou certaines d'entre elles, sont un sujet de préoccupation pour vous. Peut-être pas. Mais si nous ne nous sentons pas directement concernés par ces questions, nous connaissons certainement tous quelqu'un qui se les pose, qui peut-être même se les pose régulièrement, et qui bataille avec le doute et l'angoisse que peuvent générer ces interrogations. Avant que nous lisions notre texte de ce matin, j'aimerais encore faire deux remarques préliminaires. La première remarque pour dire que ce sujet est un très vaste sujet et qu'il y aura donc inévitablement de la frustration pour vous à la fin de ce message. Parce que impossible d'aborder tous les aspects, tous les tenants et tous les aboutissants de ce vaste sujet. Ça sera l'occasion d'aborder peut-être l'une ou l'autre chose qui n'a pas pu être abordée ce matin en étude biblique quand nous reviendrons sur cette prédication. La deuxième remarque consiste à dire que des chrétiens très bien sous tout rapport, très engagés dans le service du Seigneur, connaissant bien les Écritures, pensent parfois des choses diamétralement opposés sur cette question. Il nous faut donc avancer avec prudence et avec humilité. Ceci dit, cette prudence et cette humilité, toutes les deux nécessaires, ne doivent pas nous empêcher d'avoir des convictions. Et je vous ferai bien évidemment part des miennes ce matin. Je vous propose de lire notre texte maintenant qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10. C'est vraiment le verset 28 qui est le cœur du propos de ce matin, mais nous le replaçons dans son contexte et nous lisons les versets 22 à 30. Je lis dans la Bible dite à la colombe ce matin. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : jusque à quand tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit : je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus est à Jérusalem, dans le temple. C'est la fête de la dédicace, appelée en hébreu Hanouka, une fête où l'on faisait mémoire de la purification du temple qui avait eu lieu au temps de Judas Maccabée. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas important pour nous ce matin. Jésus est dans le temple donc, à cette occasion, à l'occasion de cette fête, et il est interpellé sur son identité messianique. Verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent : jusque à quand tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Et quelle est la réponse de Jésus ? Il répond qu'ils ont la réponse, mais qu'ils ne croient pas. Versets 25 et 26. Ils ont la réponse car, dit-il au verset 25, les œuvres qu'il a faites au nom de son Père rendent témoignage de lui. Mais ils ne veulent pas croire, ou mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas, dit Jésus au verset 26, parce qu'ils ne font pas partie de ses brebis. Pourquoi dit-il ça ? Parce que ses brebis le suivent, suivent le bon berger quand elles entendent sa voix. Si elles ne le suivent pas en entendant sa voix, c'est parce qu'elles ne font pas partie de ses brebis. La démonstration est simple et efficace. Je ne développe pas plus ce point sur le bon berger, la relation à ses brebis. Il y aurait beaucoup de choses à dire, en particulier avec tout ce qui précède au début du chapitre 10. Après avoir mis le doigt sur leur incrédulité, Jésus va ajouter ce que le bon berger fait pour ses disciples, pour ses brebis. Et que dit-il ? Il dit au verset 27 qu'il les connaît, verset 28 qu'il leur donne la vie éternelle, verset 28 qu'elles ne périront jamais, verset 28 que personne ne les ravira de sa main. Et pourquoi tout cela ? Parce que son Père, dit Jésus, qui lui a donné les brebis, est plus grand que tous, et que personne ne peut les arracher de la main de son Père. Lui et le Père sont un. Mes amis, ça, c'est de la sécurité en barre. C'est du béton armé XXL. C'est de l'acier trempé et inoxydable à la fois. Et il n'y a pas, à mon avis, dans la Bible, à part le texte de Romains 8, où l'apôtre Paul affirme que rien ne peut séparer le croyant qui est en Jésus-Christ de l'amour de Dieu, il n'y a pas de texte plus explicite, plus fort que celui-ci, pour dire la sécurité éternelle du croyant, du disciple de Jésus. Et avec ce texte, nous pouvons affirmer, ou nous ne pouvons qu'affirmer, l'assurance du salut. Car soit personne ne peut effectivement ravir une brebis de la main du bon berger et de la main de son Père, soit Jésus ne dit pas la vérité. soit ces brebis ne périront jamais, soit Jésus ne dit pas la vérité. S'il n'y avait que ce texte, s'il n'y avait que le texte de Romains 8, il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de questions, il n'y aurait même pas ce message ce matin. Mais voilà, il y a dans l'Écriture d'autres passages qui semblent dire le contraire. Il y a parfois dans l'Église, pas seulement la nôtre, hein, mais dans l'Église en général, des trajectoires de vie chrétienne qui semblent dire le contraire. Que penser et que croire? J'aimerais maintenant passer en revue quelques textes. Je pense que ce sont les plus représentatifs de tous ces textes qui semblent dire le contraire. Alors bien sûr, on ne va pas tous pouvoir les considérer. J'en ai choisi quelques-uns. J'en ai choisi 7. Vous y verrez le symbole que vous voulez. En tout cas, je vais passer assez rapidement. Il aurait bien évidemment fallu faire une exégèse sérieuse pour chacun de ces textes, d'autant plus qu'ils sont polémiques, qu'ils ne font pas l'unanimité, mais à moins que vous vouliez rester là toute la journée, je pense qu'il fallait faire un peu plus court. Le premier texte se trouve dans 1 Timothée 1, versets 18 à 20. « L'injonction que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les messages de prophètes énoncés précédemment à ton intention, c'est que t'appuyant sur eux, tu mènes le beau combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Hyménée et Alexandre sont de ce nombre, je les ai livrés au Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » On attaque fort, hein ? Il y a deux expressions dans ce passage qui peuvent être mal comprises. Faire naufrage en ce qui concerne la foi et je les ai livrés au Satan. Pour ce qui est de faire naufrage en ce qui concerne la foi, il faut premièrement souligner que rien n'indique dans ce texte que ce naufrage soit définitif. C'est une première chose. La foi de Pierre a fait naufrage quand il a renié Jésus. Mais il s'est repenti et il a été restauré. Et puis deuxièmement, il faut déterminer ici, comme dans beaucoup d'autres textes, s'il s'agit de la foi comme attachement personnel au Seigneur ou alors de la foi comme message reçu, comme saine doctrine ou comme vérité. Les deux sont régulièrement utilisés dans l'Écriture. Et il faut donc choisir, et je suggérerais ici qu'il s'agit de la foi comme message reçu, comme saine doctrine, et non pas de la foi comme attachement personnel au Christ. Faire naufrage en ce qui concerne la foi, comme message reçu, ce n'est donc pas perdre son salut. C'est s'éloigner de Dieu, oui. C'est une éclipse spirituelle, une éclipse dans la vie spirituelle, certainement. C'est l'acceptation du compromis dans la vie chrétienne, oui. De la fausse doctrine, sans doute aussi. Mais ce n'est pas perdre le salut. Pour ce qui est de l'expression « livré à Satan », c'est une expression qui nous surprend, mais qui était assez courante. En tout cas, dans le judaïsme, c'est une expression utilisée pour parler de ce qu'on dit, enfin, de ce qu'on appelle généralement l'excommunication, l'exclusion de la communion ecclésiale. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, l'exclusion de la communion ecclésiale a toujours pour visée la restauration du croyant. Et donc cette expression ici semble confirmer que le naufrage en question ici n'est pas définitif. Je vous ai dit que je faisais court, donc je m'arrête pour ce texte. Je ne vois rien dans ce texte, en tout cas à mes yeux, en faveur de la possibilité de perdre son salut malgré des paroles qui peuvent le laisser entendre. Deuxième texte, Hébreux 6, versets 4 à 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les amener à nouveau à un nouveau changement radical. Car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. La difficulté principale de ce passage est la compréhension des expressions du verset 4. Avoir été éclairé, avoir goûté le don céleste, avoir eu part à l'Esprit Saint, avoir goûté la bonne parole de Dieu, etc. Si certains comprennent que ces expressions parlent de personnes nées de nouveau, il me semble personnellement bien plus évident de comprendre qu'elles traduisent simplement l'intérêt temporaire que certaines personnes peuvent avoir pour les choses de Dieu, pour les choses de la foi. Certaines personnes manifestent un intérêt pour les choses de Dieu sans aller jusqu'à la conversion. Elles font un bout de chemin sans aller jusqu'au pas décisif qui consiste à plier le genou devant la seigneurie de Jésus, de Christ, de se repentir de ses péchés et d'accepter la grâce de Dieu, son pardon, pour vivre en nouveauté de vie. Elles ont été éclairées, du moins partiellement, par l'Évangile, par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'illumination préparatoire à la foi, que l'Esprit Saint produit à l'écoute de la parole. Elles ont goûté le don céleste. Elles se sont approchées de ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Elles l'ont, pour ainsi dire, touché du doigt. Elles ont eu part à l'Esprit Saint en goûtant à ses bienfaits, aux bienfaits de sa présence dans l'Église, de son action, de la manifestation de ses dons, de son fruit. À la communion fraternelle qu'il permet, à la grâce de Dieu qu'il manifeste au sein de son peuple. Elles ont goûté la bonne parole de Dieu qui a touché leur cœur, qui a nourri, même si c'est partiellement leur vie, qui a étanché un peu leur soif spirituelle, qui leur a offert de nouvelles perspectives pour leur vie, et j'en passe. Mais elles se sont arrêtées en chemin. Elles n'ont pas été jusqu'au bout. Et elles sont retournées, ces personnes, à leur ancienne vie. Nous parlons ici de personnes qui se sont suffisamment approchées de Dieu, qui se sont suffisamment approchées du Christ pour que leur chute, il est question de tomber, soit comme une nouvelle crucifixion du Fils de Dieu, un déshonneur public de Jésus-Christ. Ces personnes ont vu, ont touché, ont goûté, puis elles se sont éloignées. Elles ont fait leur choix, elles ne pourront être amenées de nouveau à changer d'attitude, dit le texte. Rien donc ici, me semble-t-il, qui soit déterminant en faveur de la possibilité de perdre son salut. Troisième texte. Hébreux 10, versets 26 à 30. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement, l'ardeur du feu qui va dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il s'est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. Combien pire, ne le pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été consacré, qui aura outragé l'Esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Le point qui doit être éclairci ici est la question du péché volontaire. De quoi s'agit-il? Le péché, s'il peut être involontaire, est généralement volontaire. Si tous ceux qui pêchent volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ne pouvaient plus être sauvés, je crains que le paradis ne reste résolument vide pour l'éternité. En réalité, ce dont il est question ici, c'est de la persistance dans le péché, et non pas de péché occasionnel. Une persistance alors que la personne a reçu la connaissance de la vérité. Cette persistance traduirait que la personne n'a finalement pas compris la grâce de Dieu, qu'elle n'a finalement pas eu, n'a pas été, n'est pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Que le chrétien pêche parfois, c'est malheureusement une évidence. Que le chrétien pêche continuellement, qu'il vive continuellement de manière assumée dans le péché, serait une anomalie qui traduirait qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Si l'on a cette compréhension, je ne vois rien dans ce texte qui milite en faveur de la possibilité de perdre son salut. J'avance. Quatrième texte, Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Dire et faire certaines choses, même de grandes choses, au nom de Dieu, ne suffisent pas à faire de quelqu'un un chrétien authentique. Jésus le dit clairement ici. Et puis à la fin du verset 23, il précise qu'il dira à ceux qui sont concernés ici, « Je ne vous ai jamais connu. » Et cette précision qui arrive à la fin de ce passage, nous permet de dire que les personnes qui sont concernées ici, dont parle Jésus, ne sont pas des chrétiens de nouveau, ne sont pas des chrétiens authentiques. Pourquoi ? C'est vrai qu'ils agissent ou qu'elles agissent comme des disciples. Mais souvenez-vous, nous avons commencé avec Jean 10, où Jésus dit clairement qu'il connaît ses brebis. Il les connaît. Et que dit-il ici ? Je ne vous ai jamais connu. Il ne s'agit donc pas de brebis, mais d'autres personnes. Et donc, je passe rapidement, il n'y a rien ici non plus à mes yeux qui soit déterminant en faveur de la possibilité de perdre le salut. Matthieu 12, versets 31 à 32. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. La question ici est de savoir si le chrétien peut commettre ce péché contre le Saint-Esprit, ce péché impardonnable, et donc perdre son salut. Il faut tout d'abord replacer ce texte dans son contexte et se rappeler que ce péché est avant tout un péché historique. C'est le péché commis par les pharisiens qui ont délibérément rejeté la vérité évidente à leurs yeux. Ils ont attribué les œuvres de Jésus, de toute évidence accomplies par le Saint-Esprit, et dans les versets qui précèdent, le verset 28, il est clairement dit que Jésus a fait cela par le Saint-Esprit, Ils ont attribué les œuvres de Jésus à l'action de Belzéboul, c'est-à-dire à l'action du diable. Un tel péché, et Jésus parle d'abord des pharisiens, ne sera jamais pardonné, ni dans cet âge, ni dans l'âge à venir. Dans le texte parallèle de Marc, il est même question d'un péché éternel. Jamais pardonné, car ils savaient qui était Jésus. Jamais pardonné, car ils savaient qu'il venait de Dieu. Car ils savaient qu'il agissait par l'Esprit de Dieu. Car ils savaient, et ils se sont néanmoins détournés de lui. Pire, ils ont attribué au diable les miracles que Jésus faisait par le Saint-Esprit. Certains affirment ici que ce péché n'est que historique, il ne concerne que cette situation-là. Quelle que soit la position que l'on adopte, ce que l'on peut dire, c'est que le seul péché, de manière générale, qui ne soit pas pardonnable, est celui dont on ne veut pas se repentir. Si je sais où est le salut, si je sais où est la source du pardon des péchés et que je m'en détourne, que me reste-t-il comme perspective? Et ma conviction est que le disciple de Jésus n'est pas concerné par ce péché, parce qu'il a accueilli l'Esprit Saint dans sa vie et parce que l'Esprit Saint en lui agit pour continuer à le convaincre de péché et l'amener à la repentance. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'avance et vous comprenez que je ne vois rien ici non plus qui soit déterminant en faveur d'une perte du salut pour le chrétien. Avant-dernier texte, alors c'est un peu long, mais je crois qu'il fallait passer assez largement ces textes quand même pour bien prendre en compte les textes contradictoires. 1 Timothée 4. Versets 1 et 2. Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons, par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. La question ici, comme j'y ai déjà fait allusion, est de savoir de quelle foi il s'agit. S'agit-il ici de la foi comme attachement au Seigneur ou de la foi comme vérité, comme saine doctrine, comme parole révélée? Et puis de qui parle-t-on ici? De chrétiens nés de nouveau ou de sympathisants? De personnes qui ont manifesté un intérêt? Enfin, l'éloignement dont il est question ici est-il temporaire ou définitif? J'ai déjà plus ou moins répondu à certaines de ces questions, donc je n'avance pas plus. Mais selon la compréhension que l'on adopte, on peut ici aussi arriver à la conclusion qu'il n'y a rien de déterminant dans ce texte en faveur de la possibilité de perdre son salut. Le septième et dernier texte se trouve dans la première lettre de Jean, chapitre 5, versets 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande et il lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de demander. Toute injustice est péché et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. De quelle nature est ce péché qui mène à la mort? Il y a en réalité ici trois options plus ou moins sérieuses qui s'offrent à nous. Soit c'est un péché en particulier, quelque chose qu'il faudrait déterminer, et qui a amené au cours de l'histoire l'Église catholique à faire une distinction entre les péchés mortels et les péchés véniels. Soit il est question ici d'apostasie, effectivement, d'abandon de la foi, soit il est question ici du péché contre le Saint-Esprit dont nous venons de parler. Et je proposerai ici, sans développer, qu'il s'agit de ce troisième cas de figure, du péché contre le Saint-Esprit et comme je l'ai rapidement dit, qui ne concernerait donc pas le chrétien, et si c'est le cas, il n'y a rien ici non plus pour aller dans le sens de la perte du salut. Je sens que l'étude biblique sera intéressante. Il y aurait bien évidemment encore d'autres textes que l'on pourrait considérer, mais je pense qu'avec ces textes, on a quand même une bonne vue d'ensemble des textes qui semblent dire le contraire. Ils sont représentatifs des différentes objections que l'on peut émettre à l'encontre de cette doctrine de l'assurance du salut. Ce que ces exemples, ces textes révèlent, entre autres, c'est qu'il y a dans notre discussion des distinctions à faire dans plusieurs domaines. Et j'aimerais en souligner trois. Et selon les options qu'on prend, bien évidemment, on arrive à des conclusions différentes. La première distinction concerne la foi. J'y ai déjà fait allusion. Il y a d'un côté la foi personnelle, la foi qui sauve, la foi comme attachement au Seigneur. Et puis il y a de l'autre côté la foi comme message reçu, la foi comme saine doctrine ou comme vérité. Et quand un texte biblique parle de foi, en particulier dans les épîtres dites pastorales, il faut déterminer de quelle foi il s'agit. S'éloigner de la foi qui sauve, si cela était possible, ce serait bien évidemment perdre son salut. S'éloigner de la saine doctrine, c'est tout à fait autre chose. C'est de l'égarement, c'est de l'aveuglement, c'est de l'obscurcissement de la pensée, c'est de la compromission, c'est de l'acceptation de fausses doctrines, des choses qui existent et qui peuvent arriver dans une vie chrétienne, dans la vie d'un croyant né de nouveau, qui peut ainsi s'éloigner de la foi, non pas de la foi qui sauve, mais de la foi comme saine doctrine, comme parole de Dieu révélée. Le faire donc sans perdre son salut. La deuxième distinction qu'il faut faire dans notre réflexion, et devant tous les textes bibliques sur ce sujet, c'est la distinction entre la conversion et l'intérêt pour les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que j'agis comme un chrétien que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis né de nouveau. Ce n'est pas parce que je professe la foi chrétienne que je suis disciple, brebis du Seigneur. La différence est importante parce que selon le cas, l'éloignement de la personne aux choses de Dieu, des choses de Dieu, ne signifie bien évidemment pas la même chose. Le disciple de Jésus, le chrétien né de nouveau, qui tournerait définitivement le dos à Dieu, aux choses de Dieu, serait dans une démarche d'apostasie, pour autant que cela soit possible. Celui qui n'est qu'un sympathisant et qui tourne son dos aux choses de Dieu ne perd pas la foi. Il n'a simplement pas été au bout de la démarche. Il s'est arrêté en chemin et il n'est pas passé par la case de la nouvelle naissance. Et ça nous rappelle que tous ceux qui professent le Christ ne sont pas forcément chrétiens. Il y a dans l'Église des chrétiens et des non-chrétiens. Il y a dans l'Église des disciples et des sympathisants, des curieux, des gens qui peuvent être là pour toutes sortes de raisons, qui sont en recherche de quelque chose, qui aboutira peut-être à la nouvelle naissance, peut-être pas. Ces personnes s'approchent parfois suffisamment de la foi, des chrétiens, de l'Église, pour en adopter le langage, pour en adopter les codes, mais elles ne sont pas passées par la nouvelle naissance. Elles ont été éclairées, elles ont goûté. Certaines même peuvent faire de grandes choses au nom du Seigneur, mais elles ne sont pas nées de nouveau. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'elles ont l'apparence de la piété, mais elles en renient la puissance, ou elles en renient ce qui en fait la force, l'apparence de la piété. Paul dit à Tite qu'elles font profession de connaître Dieu. Elles font profession de connaître Dieu, mais elles le renient dans ses œuvres. Tite 1, verset 16. Elles entendent la parole, elles la reçoivent aussitôt avec joie, à l'instar du sol pierreux dans la parabole du semeur. Mais le manque de racines fait que dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, elles y trouvent une occasion de chute. Et quand ces personnes s'éloignent de la foi, des chrétiens, de l'Église, des choses de Dieu, elles ne perdent pas le salut, puisqu'elles n'étaient pas sauvées. Comme le dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ainsi il est manifeste qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Et c'est le même constat que fait Jésus quand il dit que certains de ceux qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ?» etc. Quand il dit « Je ne vous ai jamais connu. » Ils ne sont pas des nôtres. C'est aussi la réalité que nous trouvons dans la parole de Dieu pour expliquer le royaume de Dieu du blé et de l'ivraie qui sont mélangés et qui ne seront séparés qu'au jour du jugement. Il n'est pas toujours possible pour nous de faire la distinction, et c'est très bien ainsi. Il faudrait pouvoir voir les cœurs, et seul Dieu peut voir les cœurs. Ça, c'est sa prérogative. La troisième distinction qu'il faut faire dans notre réflexion, c'est la distinction entre la chute temporaire et la chute définitive. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous avons dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui sont tombées dans le péché, de personnes qui se sont parfois éloignées de Dieu, qui ont même connu parfois de longues périodes de déclin spirituel, mais qui, par la grâce de Dieu, sont revenues à lui. La Bible affirme que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le seul péché pour lequel il n'y ait pas de pardon, c'est celui dont nous ne nous repentons pas. S'éloigner, chuter, tomber, quel que soit le vocabulaire qu'on utilise, n'est pas forcément définitif, pour autant que la personne se repente. Genou la gerbe, pour terminer. Le chrétien peut-il perdre le salut ? En réalité, avant de poser cette question, il faut en poser deux autres. Qu'est-ce qu'un chrétien et qu'est-ce que le salut? Le chrétien, c'est bien évidemment celui qui est passé par la nouvelle naissance. Celui qui est passé de la mort à la vie. Celui qui est passé des ténèbres à la lumière. Dans un langage un peu plus théologique, c'est celui que Dieu prédestine. C'est celui que Dieu appelle. C'est celui que Dieu rachète. Celui qu'il régénère, celui qu'il justifie, celui qu'il scelle de son esprit, celui qu'il pardonne, celui qu'il adopte dans sa famille, celui qu'il glorifie, celui qu'il rend héritier de tous ses biens dont fait partie la vie éternelle. Le chrétien n'est pas celui qui professe seulement, mais celui-là seul, dit Jésus, qui fait la volonté de mon Père. Celui qui, se sachant perdu à cause de son péché, a mis sa confiance dans la grâce de Dieu qui lui est offerte. Voilà pour la question, qu'est-ce qu'un chrétien ? Et le salut ? Le salut, c'est le cadeau que Dieu nous fait, qu'il nous offre gratuitement, qu'il offre gratuitement à quiconque croit en Jésus, au sacrifice de Jésus, pour son salut. Le salut est donc une œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes et parfaitement par Jésus. Et cette œuvre accomplie, il nous l'offre pour que nous puissions être revêtus de sa justice. C'est un don immérité qui nous est gratuitement offert. Tout cela pour dire que le salut, et vous le savez, ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous aurions fait, de ce que nous faisons ou de ce que nous ferons. Alors bien évidemment, il faut l'accepter. C'est notre responsabilité. Dieu ne nous l'impose pas. Mais je ne peux rien faire pour l'acquérir ou pour le mériter. Sa fiabilité, la fiabilité du salut, sa solidité ne dépend pas de moi, ne dépend pas de mes efforts, mais de Jésus-Christ qui a tout accompli et qui me l'offre. C'est lui qui sauve, c'est lui qui soutient, c'est lui qui nous permet de persévérer, c'est lui qui va nous chercher pour nous ramener dans la bergerie quand nous nous égarons. Il est le bon berger qui cherche toujours ses brebis. Luc chapitre 15. Mais que se passe-t-il quand je doute? Et j'aimerais répondre à cette question par une courte histoire. C'est l'histoire de deux villageois au Moyen-Âge qui sont partis loin de chez eux et qui rentrent en hiver au village. Et ils arrivent tous les deux devant le pont qui leur permettait de franchir la rivière, mais celui-ci a été détruit. Heureusement, la rivière est gelée. C'est en hiver, il fait très froid. Et il est donc possible de traverser la rivière en marchant sur la glace. Le premier est téméraire, courageux. Il ne se pose pas trop de questions. Il fonce. Et en moins de deux, il est de l'autre côté, sain et sauf. Le second est beaucoup plus circonspect, prudent. Il se pose tout un tas de questions. Et si la glace n'était pas assez épaisse? Et si par endroits c'était un peu plus fragile? Que se passe-t-il? Je vais passer à travers et je serai perdu, etc. Et donc, il s'engage, mais très très prudemment. Un petit pas à la fois, en sondant et en écoutant tous les bruits suspects. Et après d'interminables minutes, il arrive enfin de l'autre côté, lui aussi sain et sauf. La question qui se pose ici est la suivante. Qu'est-ce qui a fait que ces deux villageois sont arrivés sains et saufs de l'autre côté? Est-ce la fougue et la confiance de l'un? Est-ce la prudence excessive de l'autre? Est-ce que leurs états d'âme y sont pour quelque chose? En réalité, ils sont arrivés tous les deux à bon port parce que la glace était suffisamment épaisse. C'est la seule raison qui a fait qu'ils sont arrivés sains et saufs de l'autre côté. Et si nous appliquons cette histoire au salut, elle nous dit que ce qui fait l'assurance de mon salut, ce ne sont pas mes états d'âme. Ce ne sont pas mes engagements pour Dieu qui soient pleins de confiance ou de prudence. Ce ne sont pas mes compréhensions, mes analyses, mes réflexions justes ou fausses de la parole de Dieu, de certains textes difficiles par exemple, mais l'épaisseur de la glace, c'est-à-dire la solidité de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie une fois pour toutes et parfaitement à la croix de Golgotha. Ce qui nous donne de l'assurance, ce qui nous permet d'affirmer l'assurance du salut, c'est cela. C'est parce que le salut est solide en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que j'ai compris, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas les efforts que je peux faire jour après jour, pas même ce que je crois, mais c'est ce que Dieu a dit et ce que Jésus-Christ a dit et fait. Et si nous sommes en Christ, alors c'est ma conviction, nous pouvons nous reposer dans l'assurance du salut. Bien évidemment pas comme une licence pour pécher. Bien évidemment pas pour nous reposer sur nos lauriers, mais pour le servir avec confiance. Nous pouvons nous reposer dans l'assurance de notre salut parce que Dieu a promis que rien ne nous séparerait de son amour. Vous connaissez bien ce texte, je ne vais pas le lire parce que c'était déjà assez long, mais il y a toutes ces questions. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera? qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Et l'apôtre Paul répond au verset 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous pouvons nous reposer dans l'assurance de notre salut parce que Dieu a promis qu'il nous gardera de toute chute pour nous faire tenir devant sa gloire. Ce magnifique verset de cette épître, très délaissé qu'est l'épître de Jude, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire sans défaut dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, etc. Nous pouvons nous reposer dans l'assurance de notre dans l'assurance de notre salut, parce que Dieu a promis que ses dons et son appel sont irrévocables et il ne saurait se renier. Romains 11, verset 29, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu, l'appel qu'il nous a adressé et auquel nous avons répondu si nous sommes en Jésus-Christ, ces dons de la grâce et cet appel sont irrévocables. Est-il possible de perdre son salut ? Est-il possible que la vie éternelle donnée aux croyants ne soit que temporaire ? Est-il possible que quelque chose me ravisse de la main de Dieu qui est plus grand que tous et qui a promis de me garder ? Est-il possible qu'après avoir été rendu parfait à perpétuité, quand nous avons été sanctifiés, c'est Hébreux 10, 14 qui le dit, nous retournions à notre condition première ? Est-il possible que l'acte rédigé contre nous, qui a été effacé à la croix, soit à nouveau écrit pour nous condamner ? Colossiens 2, 14. Si ces choses étaient possibles, alors c'est ma conviction, pardon, nous devrions conclure que la Bible n'est pas fiable. Et nous devrions conclure que Dieu ment quand il dit que personne ne nous ravira de sa main. Bien sûr, il faut rester vigilant. Et nous avons la responsabilité de persévérer. Il y aurait beaucoup de choses à dire. De persévérer jusqu'au bout. Mais nous pouvons nous engager dans ce chemin de la persévérance parce que nous savons que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. La doctrine de l'assurance du salut n'est pas une licence pour pécher, pour me laisser aller, pour me reposer sur mes lauriers spirituels. Au contraire, c'est un immense encouragement à vivre pleinement pour Dieu, car je sais qu'il me garde dans sa main, quoi qu'il arrive. Aucune force dans cet univers, dans notre univers, ne pourra nous ravir de sa main. Il saura garder mon dépôt jusqu'à la fin, dit Paul à Timothée. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Êtes-vous une brebis du Seigneur ? Si vous l'êtes, alors vous pouvez vous reposer. C'est ma conviction, c'est ma compréhension des choses. Vous pouvez vous reposer dans l'assurance de votre salut et louer Dieu de tout votre cœur pour cela. Si vous ne l'êtes pas encore, permettez-moi de vous poser une seule question. Y a-t-il une seule bonne raison, en face de l'éternité, de ne pas choisir maintenant de dire oui au Seigneur? Si vous le faites, alors vous placez votre vie dans la main puissante de Dieu qui vous gardera jusque dans l'éternité. Dieu qui s'est engagé à achever l'œuvre qu'il a commencée, à achever de manière parfaite l'œuvre qu'il a commencée en chacun de ses enfants. Amen. Merci d'avoir été patient, mais il y avait tellement de choses à dire. Je sais que j'étais un petit peu long. Je vous invite à quelques instants de silence. Je vous invite à chanter l'assurance du salut. C'est un cantique, je crois, qu'on n'a pas chanté depuis très longtemps. Alors j'invite ceux qui le connaissent à chanter avec force et conviction. J'invite tout le monde à prêter une attention toute particulière aux paroles magnifiques de ce chant. C'est souvent la force de ces cantiques anciens. C'est que les choses sont belles et bien dites. C'est aussi pendant le chant que les boîtes circuleront dans les rangs pour que nous puissions les uns et les autres apporter nos offrandes. Levons-nous pour chanter.
Disparu.